France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Guirec Corbin. Il y a 4 ans, le 22 février, l'armée russe lançait la grande invasion terrestre, maritime, aérienne de l'Ukraine. Pendant que les négociateurs s'activent pour obtenir un cessez-le-feu, la nation est déjà transformée par la guerre. Nous parlerons demain de ce qu'elle fait à la solidarité, qu'il faut maintenir au front comme à l'arrière. Mercredi, de ses conséquences sur l'environnement, un préjudice à long terme. Jeudi, de ce que la guerre change dans le processus d'intégration à l'Union européenne. Aujourd'hui, ce que la guerre fait à l'action publique, les citoyens. Se l'approprient, surtout quand il s'agit de la politique de défense et de la lutte contre la corruption.
Il est primordial de défendre la lutte anticorruption pour que l'argent public puisse être intégralement consacré à l'effort de guerre. Plus le gouvernement luttera efficacement contre la corruption, plus nous serons en capacité d'investir dans notre défense et dans notre combat.
Les enquêtes menées ont permis d'obtenir des milliers d'heures d'enregistrement audio, ce qui constitue des preuves des activités d'une organisation criminelle de haut niveau opérant dans les secteurs de l'énergie et de la défense. La principale mission de cette organisation criminelle était d'obtenir des avantages illégaux auprès des sous-traitants d'Energoatom.
Je crois que le ministre de la Justice et la ministre de l'Énergie ne peuvent rester en poste. C'est aussi une question de confiance. S'il y a des accusations, il faut y répondre.
L'été dernier, le président Volodymyr Zelensky et son parti Serviteurs du Peuple ont appris à leurs dépens ce qu'il en coûtait de briser un pacte avec la société ukrainienne. Dans un contexte de guerre où le Parlement continue néanmoins à mener sa mission législative, le gouvernement a présenté un texte de loi qui clairement mettait les agences anticorruption sous sa tutelle, texte adopté à une très large majorité. Alors en pleine guerre, les Ukrainiens et Ukrainiennes sont allés manifester par milliers dans les rues de Kiev, de Lviv ou de Dnipro. Des rassemblements qui, dans leur ampleur, n'existaient depuis 3 ans que pour témoigner d'un soutien aux prisonniers de guerre. Les sacrifices consentis par la population depuis l'invasion russe du 24 février 2022 et même depuis la guerre dans le Donbass commencée en 2014, ces sacrifices ne peuvent souffrir que persiste en Ukraine un groupe de profiteurs de guerre. La lutte contre la corruption reste une priorité pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Les oligarques, leurs intrigues et leurs trafics les avaient maintenus loin des institutions dans les années 90 et 2000, mais ce temps est révolu. Et si l'État s'appuie beaucoup sur la société pour consentir à cet effort de guerre, les citoyens, en retour, se sentent légitimes pour orienter, pour commenter et pour critiquer les décisions de la puissance publique. C'est tout l'objet de votre dernier livre, Anna-Colin Lebedev. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié « Ukraine, la force des faibles », paru en juin dernier aux éditions du Seuil. Vous y racontez comment la société civile, consciente d'un État fragile a compensé dès 2014 et plus encore 2022 des initiatives spontanées qui ont finalement contribué à renforcer l'État. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris-Nanterre. Bonjour Anastasia Fomitchova.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Merci d'être de passage à Culture Monde. Vous êtes de passage à Paris. Vous vivez en Ukraine où vous êtes docteur en sciences politiques et cofondatrice du think tank IULIP à Kiev. Donc autrice d'un récit Volia paru aux éditions Grasset l'année dernière, qui a obtenu le prix André Malraux, où vous racontez notamment votre expérience d'aide-soignante militaire dans le bataillon de volontaires des hospitaliers en 2017, mais pas seulement, parce que ce qui vous importe surtout, c'est d'étudier cette forme de co-construction de l'État ukrainien avec la société civile, et cela passe aussi par ce droit de regard que porte cette société sur la lutte contre la corruption. Il se trouve, Anastasia Fomitchova, qu'il y a quelques jours, celui qui fut ministre de l'énergie puis de la justice a été arrêté, Herman Galushchenko, dans un train alors qu'il tentait de quitter l'Ukraine, arrêté pour corruption. Est-ce que c'est une conséquence directe des grandes mobilisations de l'été dernier ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, les attentes de la société ukrainienne par rapport à des résultats concrets dans le domaine de la lutte anticorruption s'inscrivent aussi en parallèle de la mobilisation de la société dans l'effort de guerre. Depuis 2022, la lutte anticorruption a connu un nouveau souffle, notamment en raison des attentes des partenaires internationaux, mais également de la société ukrainienne qui s'est engagée et aujourd'hui dans la défense du pays, mais également dans les réformes d'État, dans le processus d'intégration à l'Union européenne. Donc depuis l'octroi à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'Union européenne, il y a une liste de critères qui a été émise par la Commission européenne, qui est suivie de très près par la société civile, notamment dans le domaine de la lutte anticorruption, afin de faire avancer le pays sur ces réformes-là, mais également afin de changer le système pour ne pas revenir aux anciens schémas que l'Ukraine a connus, notamment depuis les années 90.
Donc la lutte anticorruption, c'est une demande de l'Union européenne dans le cadre de ce processus d'adhésion, mais c'est aussi et surtout une demande de la société civile, en particulier dans ce contexte de guerre où tant de sacrifices déjà sont consentis, aussi parce que l'Ukraine ne peut pas se le permettre, entre guillemets, avec un déficit budgétaire de 135 milliards d'euros pour l'exercice 2026-2027, aussi parce qu'il s'agit de faire démentir la Russie qui fait circuler ce narratif, comme on dit aujourd'hui, selon lequel l'Ukraine est le pays le plus corrompu au monde. Et d'ailleurs, ce sont des choses qu'on entend aussi dans la campagne pour les législatives en Hongrie, en ce moment, du côté du parti de Viktor Orban. Est-ce que vous pouvez nous redire un tout petit mot, on ne va pas y passer l'émission, ce n'est pas l'objet, mais de cette affaire dite Midas en Ukraine et de la raison pour laquelle cet ancien ministre a été arrêté dans un train la semaine dernière?
Absolument. Alors, en l'occurrence, il s'agissait d'un schéma de détournement, de rétrocommission, donc de corruption qui avait été mis en place dans un secteur public, le secteur énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises publiques, à l'origine, en Ukraine, étaient un secteur qui, par leur opacité, par des réseaux informels, permettait justement la mise en place de certains schémas de détournement. La mobilisation que l'on a vue l'été dernier, donc des citoyens ukrainiens qui sont sortis dans la rue pour protester contre la tentative de remise sous tutelle des institutions de lutte des institutions de la lutte contre la corruption, venait s'inscrire en fait dans une dynamique générale où depuis 2022 il y a des réformes pour justement réformer la gouvernance de ces entreprises publiques pour sécuriser en fait les flux, assurer une traçabilité également la distinction entre les fonctions de gestion et de supervision au sein de ces entreprises publiques et la très forte médiatisation, par exemple, de cette affaire où donc les sommes engagées s'élevaient à 100 millions de dollars montrent en réalité qu'il s'agit d'un legs de schémas qui existaient par le passé. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la corruption est bien, bien inférieure à celle que l'Ukraine a connue par le passé et que la société ukrainienne est extrêmement vigilante à toutes les formes de schémas de captation que l'on pourrait retrouver aujourd'hui.
En juin 2025, rien que ce mois-là, 257 fonctionnaires de haut niveau étaient jugés par la haute cour anticorruption suite à des enquêtes diligentées par ces deux agences anticorruption que sont le NABU qui compte 270 détectives, le SAPO, bureau spécial anticorruption, qui compte 40 procureurs. Alors 257 fonctionnaires jugés, d'aucuns y ont vu un signal inquiétant de recrudescence de la corruption, mais beaucoup au contraire une grande vitalité de la lutte anticorruption, y compris quand celle-ci est mise à mal, la société civile descend dans la rue pour se faire entendre.
On veut que notre pays soit démocratique. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas laisser notre gouvernement prendre de telles décisions qui nous éloignent de la démocratie. Je me dois d'exprimer mon désaccord et de faire entendre ma voix.
Ce n'est pas la première fois que nous les voyons proposer ces nouvelles lois. Nous devons être attentifs aux changements que cette loi risque d'engendrer et nous devons obtenir son abrogation. C'est la raison de notre présence dans les rues aujourd'hui. N'oubliez pas ce qu'il s'est passé ici même avec l'Euromaïdan. L'Ukraine est profondément démocratique, donc vous pouvez être sûr que nous allons continuer à manifester jusqu'au retour de toutes les libertés démocratiques.
Donc des Ukrainiens qui venaient manifester en juillet 2025 dans les rues de plusieurs grandes villes ukrainiennes. Finalement, cette loi, ce projet de loi a été retiré. Une autre loi a été dessinée qui, elle, garantit l'indépendance de ces institutions, loi qui a été cette fois-ci votée à l'unanimité. Savoir aujourd'hui, il est trop tôt pour connaître les liens entre les attaques qui étaient portées à l'époque contre les agences anticorruption et le fait qu'aujourd'hui des enquêtes aboutissent, c'est un petit peu trop tôt, je pense, pour le dire. Toujours est-il que des proches de Volodymyr Zelensky, que ce soit Tibor Mindic, cofondateur avec lui de la société de production Kvartal 95, ou encore son ancien chef de cabinet Andriy Yermak, qui avait pris énormément de place et de un rôle prépondérant dans l'administration et dans la politique publique ukrainienne, ont été écartés. Alors, des citoyens qui s'impliquent et qui s'expriment aujourd'hui sur toutes les questions liées à la réforme de l'État, Anna Colin-Lebedev, quel était jusqu'à présent le rapport des citoyens ukrainiens à l'État moderne, l'État d'après 91, que la guerre, en 2014 d'abord et particulièrement depuis 4 ans, est venue percuter?
Les Ukrainiens n'ont pas eu beaucoup d'illusions sur leur État après la chute de l'Union soviétique et l'indépendance. Au début, il y a bien évidemment l'espérance démocratique. Et puis, assez rapidement, on se rend compte que les institutions démocratiques sont parasitées par des grands acteurs, des hommes d'affaires qu'on a appelés ensuite les oligarques, que les institutions en fait se mettent au service des intérêts des milieux des affaires, que les services publics déclinent en termes de financement et les forces armées par exemple ne faisaient pas exception à cela. Et donc en fait lorsque on a cette agression, cette première phase d'agression de la Russie contre l'Ukraine qui démarre au mois de mars, à février-mars 2014, les Ukrainiens ont tout à fait conscience des fragilités de leur État et de la possible en fait faillite de cet État dans la guerre.
Et de leur propre société aussi. Dans votre livre, vous dites qu'à l'époque, dans les années 90-2000, quand vous faites des enquêtes auprès des citoyens ukrainiens parmi les plus engagés, ils n'ont pas beaucoup d'illusions sur notamment ceux qui autour d'eux sont impliqués dans les ONG. Ils pensent qu'il y a beaucoup de corruption, y compris dans ces associations.
Oui, alors je pense que les Ukrainiens ont été un petit peu trop critiques par rapport à leur propre société, c'est-à-dire qu'effectivement on n'avait pas énormément d'engagement dans le monde associatif, dans les ONG constituées, mais ce qui était un peu sous les radars, c'est toutes les formes de solidarité, notamment interpersonnelle, les liens faibles, les petites communautés, et en fait c'est celles-ci qui se sont activées et qui ont montré la capacité des Ukrainiens à faire attention à l'intérêt général, au sens du public, au sens de défense de leur État. Alors à cette époque-là, en 2014, lorsque, voyez, on couvrait en fait la guerre dans le Donbass, l'annexion de la Crimée, il y avait pas mal de commentateurs, notamment en France, qui qualifiaient l'Ukraine d'État failli, ou d'État quasiment failli, et donc n'espéraient pas grand-chose en fait de cet État, en faisant une sorte d'équivalence entre un État fragile, il sera pas capable de se défendre. Et paradoxalement, en fait, c'est la fragilité de cet État qui a amené les citoyens à s'investir beaucoup plus activement qu'ils n'auraient fait, par exemple, s'ils avaient pensé leur État puissant, leur armée bien préparée, leurs institutions prêtes à faire face.
C'est pour ça que quand survient ce qu'on a appelé le Maïdan, ce grand mouvement en 2014, qui a eu des conséquences d'ailleurs, et juste après, par ailleurs, l'invasion de la Crimée, la pression commence, que la société civile commence à exercer à ce moment-là, c'est une pression qui d'emblée force l'État à se réformer ou pas encore ?
Alors, je pense que surtout ce que l'État comprend et les institutions politiques à l'époque, on est donc à la fin de l'hiver et au printemps 2014, sont des institutions occupées par des personnes toutes nouvelles qui sont issues de la révolution du Maïdan. Le président Yanukovych et son clan ont quitté le pays. Donc, on est dans une situation d'assez grande instabilité où notamment on se pose la question de la loyauté des élites à différents niveaux, les élites policières, les élites militaires, les élites régionales, et d'ailleurs certaines ne seront pas loyal. Et donc, ce que fait l'État, en fait, à cette époque, c'est qu'il laisse faire la société. Il autorise un certain nombre de choses qu'il n'aurait sans doute pas autorisées s'il y avait conscience d'une puissance de l'État, et notamment il autorise l'implication des citoyens dans la défense, la prise d'armes, l'auto-organisation pour protéger en fait la souveraineté de l'Ukraine déjà dans les frontières orientales du pays.
Donc une société d'abord consciente d'un État fragile, qui se méfie d'un État qu'elle considère comme trop fragile, qui sera un moteur puissant d'engagement citoyen, comme vous l'écrivez Anna Colin-Lebedev, qui compense par des initiatives spontanées dès 2014 et la guerre dans le Donbass. Ça s'est joué d'abord à travers le militaire, entre guillemets, le rapport à l'armée, l'émergence de bataillons volontaires civils.
Je m'appelle Victoria Katalichuk et j'étais commandante du 135e bataillon, que j'ai dirigé en direction de Siviro-Donetsk et de Lysychansk. J'ai rejoint l'armée parce que je voulais mettre fin à cette guerre le plus vite possible et pour que nos enfants n'aient jamais à la vivre. Mon mari et moi sommes tous les deux militaires. Le 24 février 2022, nous avons décidé de partir ensemble pour défendre notre patrie. Notre première mission a été de former des jeunes qui n'avaient jamais tenu d'armes de leur vie. Peu à peu, on finit par s'adapter. Même si je sais que ce n'est pas à la portée de toutes les femmes. Soyons honnêtes, on ne peut pas se plaindre aux autres en leur disant « Oh, je suis une fille, j'ai mal au dos ». En faisant ça, on risquerait de perdre leur respect. Mais j'avoue qu'un jour, mes collègues masculins m'ont offert des fleurs.
Victoria Katakichuk, elle est commandante dans l'armée ukrainienne. Elle raconte les modalités de son engagement à Arte. C'est un reportage qui avait été diffusé il y a déjà un peu plus d'un an. Comment, Anna Colin-Lebedev, ce qui s'est passé dès 2014 et les années suivantes, le fait que beaucoup se sont engagés d'abord comme volontaires, comment ça a joué dans le fait que l'armée et cette commandante qu'on vient d'entendre n'ont finalement pas eu beaucoup de mal à trouver des volontaires dès le mois de février 2022?
Alors en fait, effectivement, il faut 8 ans de guerre pour que ce phénomène se mette en place. La commandante qu'on vient d'entendre est une militaire professionnelle, mais la très grande majorité des personnes qui s'engagent en 2014, et d'ailleurs la très grande majorité des personnes qui s'engagent en 2022, sont des civils. Sont des civils qui souvent, en fait, n'ont aucune expérience des armes et qui rejoignent soit des unités de l'armée régulière, soit des bataillons créés ad hoc à ce moment-là, combattent pendant un certain temps. Certains vont devenir des militaires professionnels tout de suite, et je dirais, voilà, apporter d'emblée une nouvelle culture dans l'institution militaire. D'autres, à partir de la transformation de la guerre après 2015 et les accords de Minsk 2, la guerre dans le Donbass passe à ce moment-là dans une phase de guerre de basse intensité. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir autant de personnes sur le front. Beaucoup se démobilisent. Beaucoup de ces civils se démobilisent. Mais en se démobilisant, et ça, c'est des gens que j'ai beaucoup rencontrés, en fait, dans ces années entre 2015 et 2022, ils vont s'engager pour les forces armées, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont être invités, par exemple, à rejoindre le ministère de la Défense pour mettre en place un certain nombre de réformes. Soit ils vont rester dans des ONG, dans des associations qui étaient créées à partir de ce moment-là, pour contrôler ce qui se passe dans les forces armées, pour propulser les réformes dans les forces armées, pour prendre en charge les vétérans, pour prendre en charge les blessés, etc., etc. Et donc, en fait, il va y avoir une sorte de va-et-vient entre les forces armées et la société. Pourquoi ? Parce que dans ces années-là, qui sont des années de pression militaire relativement limité. Enfin, voilà, à l'époque, c'est déjà énormément de pression militaire, mais comparé à ce que l'Ukraine connaît depuis le 2022, c'est sans commune mesure. Mais dans une phase de guerre, mais d'une guerre tenable, en fait, il y a cette idée des citoyens que l'armée, ça compte. Qu'il faut pas, enfin, que c'est pas juste un endroit marginal au sein de l'État, ou qu'on peut pas laisser l'armée se réformer d'elle-même, que les citoyens doivent absolument activement s'engager pour améliorer leur capacité de défense. Et c'est en fait ces 8 ans de préparation qui font que, en 2022, je dirais, lorsque la Russie agresse, l'invasion à grande échelle est quantitativement, bien évidemment, sans commune mesure avec ce qu'il y avait avant, mais quelque part, les Ukrainiens sont prêts, qu'ils se soient préparés ou non, ils savent ce qu'est une guerre, ils savent comment sont leurs forces armées, ils savent où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire.
Alors qu'avant 2012, l'évitement du service militaire était massif dans la société ukrainienne. En 2022, non seulement l'armée n'a aucun mal à recruter les volontaires nécessaires, mais elle a même du mal à assumer la masse de travail administratif que ça représente, et vous racontez dans les sous-sols de l'institution
institutions militaires, les fichiers conservés dans des dossiers papier qui partent en lambeaux à cause de l'humidité ou des rats. Et donc, tout le monde à la fois s'organise, il y a une forme de co-construction de la politique de défense entre l'État et les Ukrainiens et Ukrainiennes, les citoyens. Quelles solutions concrètes émanent de la société civile, Anastasia Fomichova?
Alors, à l'époque, donc effectivement, comme l'a dit Anna, en 2014, l'armée n'était absolument pas prête. Il se trouve que même les décisions, les décrets qui avaient été passés par Viktor Yanukovych entre 2010 et 2013 avaient complètement désorganisé le commandement militaire et donc la structure de l'appareil militaire en tant que tel. Et donc, les données que nous avons, c'est qu'à l'époque, en 2014, lorsque la Russie attaque pour la première fois l'Ukraine, il y a seulement 6000 hommes qui sont prêts à être... prêt à entrer au combat. Donc dans ce contexte-là, ce sont effectivement dans la continuité du Maïdan des citoyens ukrainiens qui s'auto-organisent pour prendre en charge un pan entier de la défense du pays. Donc des bataillons combattants, mais aussi des bataillons médicaux pour assurer avec le soutien de l'État ce rôle dans la question de l'organisation de la défense. Ces bataillons-là vont ensuite être intégrés progressivement à partir de 2016 dans l'armée. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette co-construction est partie du bas. Ce sont les citoyens qui ont rejoint dès le départ ce champ de la défense et qui ont, avec le soutien et l'investissement de l'État, co-construit l'armée ukrainienne.
Avec des associations qui se spécialisent dans l'approvisionnement matériel que l'armée ne peut pas fournir aux troupes, comme cet électricien plombier qui a mis ses compétences au sein d'une association au service de l'armée.
Au départ, c'est Bogdan qui a eu l'idée de faire ça. Un jour, il a vu sur TikTok que tu pouvais désassembler des cigarettes électroniques, en retirer la batterie, qui est rechargeable, et il en a fait une batterie portative, juste pour essayer. Ce jour-là, je passais le voir, je lui ai demandé de m'en faire une. On a adoré le concept et on s'est tout de suite dit que ça servirait bien plus à nos amis soldats sur le front. Vous vous demandez pourquoi on fabrique des batteries et pas des armes? Imaginez, une batterie de recharge en plus pour les soldats dans la tranchée, c'est 10 minutes, 30 minutes, une heure de connexion en plus où ils peuvent appeler leurs proches en disant « je vous aime, tout va bien ». Ils peuvent aussi téléphoner à leur commandant en disant « alerte, envoyez du renfort ». La batterie, c'est un moment de vie en plus.
Un témoignage recueilli pour l'émission C'est dans l'air. Anna Colin-Lebedev, vous parlez d'une acculturation mutuelle de l'armée et des réseaux associatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, outre le fait que ces réseaux associatifs et ces civils viennent apporter un savoir-faire, une forme de débrouille avec chacun ses compétences à mettre en avant? Au-delà de ça, comment ont-ils obligé l'armée, contraint l'armée et les institutions en général à s'adapter à ce que eux pensent bon et juste pour la politique de défense?
Je pense que c'est pas du tout évident pour une armée avec une culture militaire classique d'accepter que des activistes d'une ONG ou des activistes de la société civile apportent en fait des propositions, des idées de réorganisation, des produits nouveaux par exemple qu'il faudrait diffuser sur le front, etc. Donc ça, l'acculturation, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que avec cette manière de faire la guerre et cette manière de civil de s'investir en fait dans la réforme des forces armées et dans la défense du pays, les forces armées ont pris l'habitude aussi d'entendre la société et de rentrer en interaction avec les activistes. Et aujourd'hui, vous avez une circulation très importante entre les unités militaires et l'arrière, où en fait les activistes vont par exemple amener à une unité militaire un nouveau matériel à tester. Les soldats vont le tester en temps réel, vont leur faire un petit retour, les activistes vont revenir et puis proposer, améliorer un petit peu le prototype. Des personnes civiles que moi j'ai par exemple interrogées qui se déplacent sur le front pour former les soldats, pour entraîner les soldats. Et donc en fait, il y a aussi cette idée que les civils peuvent apporter quelque chose, par exemple s'ils ont une compétence en tir ou s'ils ont une compétence en tactique issue d'un autre métier. Mais l'acculturation passe aussi par par l'autre côté, c'est-à-dire qu'on prend le problème à l'inverse. Aujourd'hui, le monde associatif ukrainien est un monde associatif qui est très sensible aussi aux contraintes qui sont celles de l'institution militaire, aux contraintes de, par exemple, de secret défense, de sécurité, de nécessité de hiérarchiser et organiser les choses. Donc il y a eu aussi, parmi tous ces activistes, une sorte d'habituation à interagir avec l'armée. Et ça crée tout un écosystème, en fait, où il y a à la fois des mouvements associatifs, des entreprises et l'État, qui est très très loin des modèles dont nous sommes familiers. Un modèle où, par exemple, le ministère de la Défense va déléguer à une entreprise la charge de la production d'un armement ou à déléguer un cabinet de conseil les réformes. Là, on est beaucoup plus sur des dynamiques, effectivement, où un va-et-vient complet, permanent entre la base et le sommet de la décision, une manière très horizontale d'interagir entre les ONG et l'État.
Anna Astasia Fomichova, vous souhaitez dire quelque chose à ce sujet ?
Absolument. Donc en fait, pour revenir encore une fois sur 2014, donc dans le contexte de cette absence, quasi-absence d'appareils militaires construits et opérationnels, ce sont des associations qui ont aussi permis l'équipement au départ des soldats, puisque dans le cadre des premières vagues de conscription, donc en 2014-2015, les militaires n'avaient même pas l'équipement de base. Et donc ce sont des groupes civils qui se sont organisés d'abord pour équiper les combattants. Et ensuite, on a pu voir au fur et à mesure des années que ces groupes se sont aussi professionnalisés pour fournir de l'équipement plus précis, donc de l'équipement de combat, mais également améliorer les technologies auxquelles les militaires avaient accès. Donc en fait, c'est une dynamique que l'on a depuis plus d'une dizaine d'années, où aujourd'hui aussi la société civile est très impliquée sur, par exemple, la fabrication, l'amélioration des drones qui sont utilisés, qui sont testés sur le terrain par les militaires. Les militaires font leur retour à ces structures civiles et c'est cette coopération entre la société et l'armée qui permet ces évolutions technologiques très rapides qui s'adaptent à un terrain militaire qui évolue très rapidement.
Anna Colin-Lebedev.
Oui, je voulais ajouter un petit exemple parce qu'on parle beaucoup de drones, mais il y a des choses, par exemple, plus quotidiennes et peut-être plus familières aux auditeurs. Enfin, non, peut-être pas familières, mais plus faciles à comprendre. Je me suis intéressée à un objet spécifique qui fait partie de la trousse de premier secours sur le front, qui est le garrot. Le garrot qui permet d'arrêter les saignements critiques sur le front et qui est vraiment un objet indispensable pour sauver les vies parce que chaque minute compte en cas de saignement abondant. Et donc en fait, ce qui est très intéressant en Ukraine, c'est qu'au début, en 2014, lorsque la guerre dans le Donbass démarre, dans les trousses, il n'y a pas véritablement de garrot. Disons, il y a un modèle en caoutchouc, une espèce de bande en caoutchouc soviétique qui se déchire au premier contact et qui en fait met les soldats en danger plus qu'elle ne sauve des vies. Et c'est des activistes réunis en association de testing en fait qui vont militer pour que l'État ukrainien équipe chacun des combattants d'un garrot digne, d'un garrot de qualité pour préserver les vies sur le front. Et c'est les activistes qui vont être très vigilants, par exemple en faisant le tour du front, en testant, en faisant ouvrir les trousses de premier secours aux combattants et en testant le garrot pour ensuite revenir vers l'État et dire ce n'est pas tout à fait la bonne qualité, et il faut encore rendre les normes un petit peu plus sévères. Donc là, on voit bien, en fait, au niveau même de la vie quotidienne sur le front, à quel point la société va avoir un rôle très important à jouer.
Il y a les civils qui ont ce rôle très important à jouer depuis leurs associations, leurs ONG, depuis leur façon de travailler, de peser entre guillemets civils, mais il y a aussi tous ceux qui s'engagent comme volontaires, et pour eux, vous expliquez, Anna Colin-Lebedev, que le centre de recrutement de l'armée ukrainienne aujourd'hui propose une sorte d'approche personnalisée. À quoi est-ce qu'il s'agit en l'occurrence de s'adapter aux compétences de chacun, aux failles de chacun, aux difficultés de chacun? Qu'est-ce que ça veut dire que l'armée s'adapte à celles et ceux qui se présentent?
L'armée ukrainienne aujourd'hui doit recruter des civils qui, pour la plupart, n'ont aucune expérience non seulement du combat, mais qui ont eu aucune interaction avec les forces armées auparavant. Donc il y a une sorte de travail énorme pour avoir un rapprochement, en fait, pour rapprocher ces citoyens de la fonction de combattant. C'est tout un univers qui se reconstruit complètement pour celui qui est engagé. Et en fait, prenant conscience de ça, les forces armées, aussi grâce aux activistes de la société, se sont rendus compte qu'aujourd'hui, un civil ukrainien pour s'engager, il a beaucoup plus de facilité en fait à rejoindre les forces armées s'il arrive à anticiper où il va, s'il est conscient que par exemple ses compétences seront prises en compte, mais aussi ses faiblesses, par exemple sa fragilité physique puisse être prise en compte, et qu'il y a besoin en fait aujourd'hui de donner de la clarté, de la visibilité et garantir une certaine autonomie en fait à la personne qui s'engage, qu'elle ait la sensation d'être toujours maîtresse de son destin. C'est un changement de culture complet pour les forces armées. On imagine plutôt qu'on mobilise une personne, elle rentre dans une caserne et à partir de ce moment-là, c'est l'armée qui décide en fait à quelle place elle va être placée. Donc aujourd'hui, en fait, l'Ukraine repense et réinvente le système de recrutement en se calquant pas uniquement sur les méthodes du privé, mais aussi sur les méthodes du privé, c'est-à-dire en essayant de trouver le meilleur poste pour la meilleure personne et d'entendre aussi la volonté de celui qui part à l'armée.
Anastasia Fomichova, les citoyens aujourd'hui posent vraiment la question des modalités de leur participation à l'effort de guerre. C'est un modèle entre guillemets assez libéral aussi que cette façon d'avoir un cadre très individualisé pour que chacun participe à hauteur de ses compétences.
Absolument. Bon. Disons que le choix, ce que j'ai pu constater, c'est que donc si les citoyens se sont engagés massivement en 2022, aussi en 2022, il y avait une véritable fluidité dans la possibilité de changer d'unité. Aujourd'hui, les transferts se sont réassouplis après une phase où il était quand même plus difficile de changer d'unité. Mais donc chaque citoyen en Ukraine aujourd'hui cherche à s'engager à sa manière. Il y a ceux qui rejoignent effectivement les forces armées, qui signent un contrat et en l'absence aujourd'hui de démobilisation ne savent pas combien de temps en fait ils vont devoir rester dans les forces armées. Il y a ceux qui à leur échelle donc travaillent, rejoignent le milieu associatif pour apporter un soutien aux forces armées. Mais dans chaque ville aujourd'hui, on constate que les commerces vont, par exemple, reverser une partie de leurs revenus à une unité où ils ont des amis qui se sont, par exemple, engagés. Il y a encore des structures qui permettent d'apporter une aide ponctuelle aux combattants. Il y a ceux qui vont s'engager également dans les hôpitaux, qui vont s'engager sur la question de la réhabilitation des soldats, donc dans les centres de réhabilitation pour les blessés. Et donc, aujourd'hui, toute la société en Ukraine cherche à s'engager à hauteur de ses moyens, aussi par exemple en faisant des dons chaque mois, soit à des unités directement, soit à des associations. Et donc c'est cette interdépendance aussi et ce brouillage des frontières entre le civil et le militaire qui explique pourquoi est-ce que le pays tient.
Chacun, chacune met ses compétences à disposition, même si ça n'a absolument rien à voir avec le combat.
Actuellement, beaucoup de jeunes s'engagent sur le front. Au moins 5 de mes amis, âgés de seulement 18 ans, font partie des brigades d'assaut. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est ici, en coulisses, que je suis le plus utile. Alors depuis quelque temps, j'organise des concerts et des événements à Kiev afin de collecter des fonds pour l'armée. Après tout, on ne peut pas non plus laisser la culture disparaître. Je joue de la musique dans un groupe. Je suis aussi DJ et j'organise des événements culturels et des soirées dans le quartier de Podil.
Il s'appelle Sanya Kistikapunk Prekolovic. Il est musicien et DJ à Kiev. Il a trouvé d'autres manières, disons, détournées de s'engager pour aider son pays. Il était rencontré par Arte. Cette co-construction au sens large, que ce soit dans les forces militaires, mais aussi au service de l'État, est-ce qu'elle concerne aussi toutes les réformes engagées, des réformes majeures que le gouvernement ukrainien a engagées, y compris en pleine guerre, qui sont également des exigences de l'Union européenne dans son contrat d'adhésion, réformes de décentralisation, réformes de l'administration publique. Anastasia Fomichova, est-ce que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure dans l'administration militaire se voit partout dans l'État et les institutions?
Alors oui, moi c'est ce que je constate aujourd'hui sur le terrain, donc en Ukraine, c'est que la société civile s'engage à hauteur de toutes les réformes, à la fois donc même dans la rédaction l'examen des projets de loi, il y a une véritable fluidité entre des acteurs de la société civile et les acteurs parlementaires qui est reconnue, qui est institutionnalisée, puisque les organisations de la société civile peuvent siéger dans les commissions parlementaires et faire leur retour, faire leurs amendements, donner leur avis.
C'est nouveau. Ça avait été suspendu par la guerre en 2022, mais c'est de nouveau possible depuis le mois de septembre dernier, c'est ça ?
Absolument. C'est-à-dire que depuis 2022, donc on constate une véritable centralisation de l'action publique, de la prise de décision politique qui a été justifiée par des raisons de sécurité nationale. Donc jusqu'à novembre 2025, les sessions parlementaires n'étaient plus ni enregistrées ni retranscrites. L'agenda n'était plus publié. Les associations, donc les structures de la société civile n'étaient pas formellement autorisé à venir siéger dans ces commissions parlementaires, mais face à la pression de la société civile, donc celles-ci ont été réautorisées à accéder au Parlement. Après, pendant toute cette période, il y avait quand même des dynamiques plus informelles qui s'effectuaient. Donc les échanges entre la société civile et les acteurs étatiques étaient toujours là, simplement moins institutionnalisés. Et donc aujourd'hui, par exemple, une réforme qui était demandée par la Commission européenne, justement dans le domaine de la lutte anticorruption, il s'agissait de la réforme de l'agence ARMA qui gère les actifs qui ont été saisis dans les affaires de corruption. La société civile a activement participé à la réécriture de la réforme, mais vérifie aujourd'hui son application concrète, puisque aujourd'hui les biens qui sont saisis dans les affaires de corruption, mais qui ont aussi été saisis par le passé, sont réinvestis dans le budget. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette mise à disposition des compétences des acteurs non étatiques, que ce soit aussi, par exemple, sur d'autres questions comme celle de la numérisation, qui permet la traçabilité des flux, donc des ingénieurs, investissent aujourd'hui aussi le champ de l'action publique afin de réformer le pays de l'intérieur.
Et Anna Kolar-Lebedev, cette grande part du personnel politique et administratif qui est issu du monde associatif, vous nous en parliez tout à l'heure, vous évoquez aussi dans votre livre Lesia Vasilenko, qui est une ancienne avocate en droit, elle est avocate en droit, elle a d'abord fondé une association destinée, après le Maïdan, à porter assistance à des manifestants qui avaient été arrêtés. Elle a ensuite entamé une carrière politique au sein du Parlement ukrainien. Toutes ces personnes qui viennent de cette société civile, qui se sont engagées, que ce soit comme avocat, comme parfois combattant, qui sont aujourd'hui élus ou dans les institutions, quel nouveau discours, quelle nouvelle pratique porte-t-il ? Est-ce qu'on sait par exemple si Lesia Vasilenko avait voté le texte l'été dernier qui devait amoindrir l'indépendance de la lutte anticorruption ?
Il est certain que cette nouvelle génération est très vigilante en fait à toutes les dérives qu'il peut y avoir dans les institutions étatiques, vigilante à la corruption, vigilante également vis-à-vis des décisions prises par l'État et des priorités de l'État. Et je pense que là, pareil, on a une espèce de continuité de la vigilance. Ce qu'il faut se dire, c'est que la guerre a transformé véritablement la conception de citoyenneté et de citoyenneté active, en fait, au sein de l'Ukraine. On a pensé souvent la citoyenneté sous le mode de électoral, hein, exercer son rôle de citoyen, c'est avant tout voter. La guerre a questionné l'exercice de la citoyenneté au regard de l'obligation militaire. Être citoyen, c'est aussi remplir son devoir de défense du pays quand l'État l'exige. Et bien évidemment, c'est pas évident. Mais je pense que au-delà de ça, les Ukrainiens vont définir la citoyenneté comme une vigilance structurée vis-à-vis de leur État. Vigilance structurée vis-à-vis de chaque décision. Donc chacun considère qu'en fait son devoir, eh bien, c'est d'une part de veiller là où les choses ne se passent pas bien dans votre domaine de compétence, mais deuxièmement d'intervenir. En fait, ne pas se contenter de critiquer, mais d'intervenir pour essayer de changer les choses, prendre la parole le plus ouvertement possible, remettre en question chacune des décisions lorsqu'elle vous paraît illégitime. Et il y a aujourd'hui en Ukraine cette coexistence très intéressante, à la fois d'un très grand soutien de l'État dans la défense, soutien du président Zelensky dans son rôle de représentant de son État sur la scène internationale, et en même temps, une critique permanente de chacune des décisions qui se déploient dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public en général. Et les deux coexistent très bien, parce que c'est le même, en fait, c'est le même exercice, le même type d'exercice de la citoyenneté. Moi, j'ai eu plusieurs interlocuteurs qui, au fur et à mesure des années, me répétaient la même phrase « l'État, c'est moi ». Et l'État, c'est moi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que, par exemple, j'ai tous les droits, etc. Pour les Ukrainiens, en fait, ça veut dire « je porte une responsabilité ».
Il y a aussi ces voix qui s'élèvent, peu nombreuses, mais qu'on entend, notamment dans plusieurs documentaires d'Arte, de femmes qui expliquent que leurs maris ont été recrutés de force dans l'armée. Ils venaient pour payer une amende parce qu'ils ne s'étaient pas présentés juste après leurs 25 ans et elles ne les ont pas revus. Il y a d'autres sujets de colère ou d'inquiétude qui sont portés aujourd'hui par une opposition politique. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Anastasia Fomichova, en temps de guerre, une opposition comme celle de ce Romain Lozinski, qui a été engagé sur le front, qui est aujourd'hui député d'un petit parti d'opposition qui s'appelle Holos. Qu'est-ce que c'est être dans l'opposition quand on est en temps de guerre ?
Alors, aujourd'hui, donc, il faut rappeler que donc, l'Ukraine est une démocratie et donc effectivement, il y a des 91% des Ukrainiens dans un récent sondage du Kyiv International Institute of Sociology disaient qu'il est important, même en temps de guerre, de pouvoir critiquer son gouvernement, ses décisions. Et c'est justement ce qui explique que les Ukrainiens soient aussi sortis dans la rue lorsque ce projet de loi, cette loi sur la remise sous tutelle de certaines institutions de la lutte anticorruption avait été mise en place. Donc, être dans l'opposition aujourd'hui, ça signifie, d'un point de vue parlementaire, il y a des débats parlementaires, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une unité très forte au sein de la société. Oui, on est sur un exercice démocratique qui se manifeste aussi en temps de guerre.
Une nation transformée par la guerre, nous consacrons cette nouvelle série dans Culture Monde à l'Ukraine. Aujourd'hui, les citoyens en première ligne de l'action publique, on en parle avec nos invités Anna-Colin Lebedev, Anastasia Fomichova et Alexandra Goujon, que nous retrouvons pour le Focus. Les citoyens mobilisés pour pallier les lacunes de l'État, y compris pour ce qui est de perpétuer le souvenir des disparus et de contribuer à une mémoire collective.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je suis venue honorer la mémoire de mon mari Yaroslav. Il était parti combattre en 2014 au sein des bataillons des volontaires. Il est mort il y a près d'un an, près de Moshoun. Venir ici pour lui rendre hommage, c'est un jour très important pour mes filles et pour moi. Nous ressentons beaucoup de tristesse, mais en même temps, nous sommes fiers de lui.
Une cérémonie en hommage aux soldats morts au front, extrait d'un reportage d'Associated Press devant le mur du souvenir érigé à Kiev. Les politiques mémorielles font partie en quelque sorte de l'effort de guerre et dans ce registre aussi, les citoyens devancent bien souvent la puissance publique. Bonjour Alexandra Goujon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, autrice du livre « Ukraine de l'indépendance à la guerre » paru aux éditions Cavalier Bleu. Ça fait longtemps que vous travaillez, Alexandra Goujon, sur les questions politiques, sur la lutte contre la corruption, mais aussi spécifiquement depuis quelque temps sur la façon dont la société ukrainienne s'approprie les enjeux de mémoire et on avait très envie de vous entendre à ce sujet. Quelle ampleur ces dernières années, Alexandra Goujon, a pris ce mur du souvenir qui existe depuis 2014 ? Est-ce qu'il est en quelque sorte toujours autogéré par les familles des morts de la guerre ou est-ce que les autorités ont pris le relais ?
Alors effectivement, il continue d'être autogéré et je dirais même qu'il y avait une sorte d'organisation associative, enfin des personnes qui essayaient de standardiser les portraits. Et à partir de 2022, une de ces personnes a dit bah, « maintenant, on laisse les personnes mettre les photos où elles veulent ». Et comme il y a des photos qui sont sans cesse rajoutées sur ce mur, aujourd'hui il n'y a plus de standardisation, il n'y a plus de place non plus, donc on met des photos sur les bas-côtés et effectivement le mur en fait en quelque sorte aujourd'hui appartient complètement en fait aux citoyens. Alors il y a une forme d'institutionnalisation, d'abord parce que par exemple il y a un jour commémoratif des défenseurs le 29 août, jour des défenseurs et des défenseuses de la patrie. Donc là il y a des commémorations officielles par exemple le matin, et après toute la journée ce sont les citoyens. Et puis c'est un mur aussi auprès duquel se rendent les délégations officielles aujourd'hui lorsqu'elles viennent sur Kiev.
Ce mur du souvenir, il se trouve devant le monastère Saint-Michel et son dôme en or, aussi le champ de drapeaux de la place Maïdan, des centaines de petits drapeaux jaunes et bleus plantés dans la pelouse, chacun représentant un soldat mort au combat. Qui, là encore, en a eu l'initiative de ce champ de drapeaux?
Alors aujourd'hui, la personne qui nous raconte en fait l'histoire de ce champ de drapeau, c'est une femme que l'on retrouve quasiment tous les jours sur ce champ de drapeau, et qui en fait c'est une bénévole qui l'administre. Alors elle ne l'administre pas seule, puisqu'aujourd'hui il y a des brigades qui s'en occupent. Il y a aussi tout simplement des proches de soldats morts qui viennent et qui s'en occupent. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, au départ, c'est un soldat américain, combattant du côté des forces ukrainiennes, qui a posé le premier drapeau.
Il y a en Ukraine de nombreux mémoriaux de ce type, des allées du souvenir, des allées des héros, toujours à l'initiative d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes civiles qui éventuellement ont perdu un proche ou souhaitent contribuer à la mémoire de ceux qui sont morts, ou toujours à l'initiative des municipalités.
Oui, tout à fait. Alors, cette politique mémorielle, pour aller dans le prolongement de ce que vous disiez précédemment, c'est également une co-construction citoyen et administration. Et il se trouve qu'elle est fortement décentralisée, puisque ce sont les municipalités qui ont en charge les monuments aux morts, en fait. Donc, à l'exception du grand cimetière militaire national qui a été créé l'année dernière, donc en Ukraine, enfin, les discussions ont eu lieu précédemment, mais les premières inhumations ont eu lieu l'année dernière. Ça, c'est vraiment une politique d'État. En dehors de cela, l'ensemble des monuments sont gérés par les municipalités. Donc, ça concerne à la fois des monuments qui sont dans la ville, et puis, bien évidemment, beaucoup de discussions autour des carrés militaires dans les cimetières.
Dans la ville de Lviv, que vous connaissez très bien, Alexandra Goujon, si j'ai bien compris, ça fait 3 ans que les citoyens débattent entre eux des modalités de construction d'un mémorial. Qu'est-ce qui met tant de temps à être décidé? Quel genre de questions génère un tel projet?
Alors l'idée d'un mémorial donc est apparue assez rapidement, et en fait les discussions portent sur l'aspect de ce mémorial plus particulièrement, alors là c'est un débat qui a lieu dans toute l'Ukraine aujourd'hui et plus particulièrement à Lviv, j'expliquerai dans un instant pourquoi, c'est la question de la pierre des tombes et des sépultures de soldats. C'est-à-dire que la discussion porte autour de la couleur de la pierre, de la qualité de la pierre, et on a une tradition en fait, j'allais dire, dans ces pays-là, plutôt d'utiliser la pierre noire et le granit dont dispose l'Ukraine. Mais en fait, les Ukrainiens, avec l'invasion russe à grande échelle, ont commencé aussi à se pencher sur leur tradition, d'inhumation, et sont apparues de nombreuses photos sur les tombes cosaques qui sont plutôt de couleur claire. Donc il y a une recherche par certains aussi dans le prolongement des lois de décommunisation, des russifications, etc., de retrouver des traditions et funéraires, et donc de plutôt privilégier la pierre de couleur blanche, donc que ce soit le grès ou du terrazzo. Enfin, il y a plusieurs matériaux qui sont comme ça testés. Et à Lviv, alors pourquoi? Parce qu'en fait, la mairie a mis très rapidement en place un projet avec des réunions publiques. Aujourd'hui, on est à plus de 40 réunions publiques. L'idée, c'est d'avoir vraiment les familles proches de soldats derrière la municipalité, et de ne pas imposer un projet qui ne soit pas soutenu. Parce qu'en Ukraine, on sait, quand un projet n'est pas soutenu, il peut générer de la contestation. Et donc, il y a vraiment cette idée de vouloir de vouloir associer la population. Et là, on est dans un moment particulier puisque la mairie a décidé donc de poser devant le Champ de Mars, donc là où sont inhumés les soldats depuis 2022, des trois exemples de pierres tombales pour que la population voit aussi leur évolution dans le temps et leur résistance à différentes situations météorologiques.
Alors voilà, quand le mémorial est constitué de pierres tombales et il y a d'autres mémoriaux qui sont dans d'autres registres, entre guillemets, à Odessa par exemple, cette allée de cerisiers plantée en juin 2024, symbole de la mémoire éternelle des enfants disparus, c'est ainsi que ça a été présenté. Il y a de petites cloches accrochées ici et là pour symboliser les voix des enfants, les voix de ces enfants tués. Quand ils sont à l'initiative des autorités civiles et militaires, est-ce que ces lieux de commémoration créent systématiquement des débats, si ce n'est pas sur la couleur des pierres tombales, ça peut être sur leur remplacement, sur les symboles choisis, sur l'entretien?
Oui, tout à fait. Alors, il y a en fait nécessairement, de toute façon, à la fois des initiatives qui peuvent provenir, j'allais dire, des familles, et puis des initiatives qui viennent de la municipalité. Mais alors, très rapidement, de toute façon, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a des discussions qui se mettent en place, et c'est quand même assez rare qu'une municipalité impose quelque chose, j'allais dire, un format qui ne soit pas accepté, en tous les cas, par les plus actifs. Il faut savoir aujourd'hui aussi qu'en Ukraine, dans toutes les villes, vous avez des associations de mères et de femmes, de soldats. Celles-ci existaient dès 2014, mais bien sûr ont pris une très grande ampleur. Et ces associations sont aujourd'hui des interlocutrices en fait du pouvoir local. Je voudrais aussi dire que vous avez mentionné donc des allées d'arbres. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour l'Ukraine, et effectivement ça a été c'est une initiative donc qui n'est pas typiquement ukrainienne, planter des arbres en hommage à des victimes d'attentats ou de massacres de masse, c'est quelque chose qu'on a vu se développer ailleurs dans le monde. Donc l'Ukraine ne vit pas non plus enclavée, elle s'inspire aussi de choses qui se font à l'extérieur. Il y a tout un réseau d'experts mémoriels qui se sont aussi développé dans le pays. Et il y a par contre quelque chose que je pense d'assez spécifique, c'est ce qu'on appelle les allées du souvenir. Dans chaque centre-ville aujourd'hui, il y a en fait des allées de portraits des soldats qui ont des formats un petit peu différents les uns des autres, mais qui sont une sorte de transposition de ce qui existe dans les carrés militaires. Comme les carrés militaires sont dans les cimetières et donc aux abords des villes, en quelque sorte, on a fait revenir l'hommage en fait aux soldats au cœur des villes. Et ça, c'est un dispositif qui est dit aujourd'hui temporaire, un peu comme d'ailleurs le mur de souvenirs à Kiev, mais qui en fait, en raison de la durée de la guerre, eh bien, s'installe dans l'espace public.
Merci beaucoup Alexandra Goujon d'avoir été avec nous dans Culture Monde, Ukraine de l'indépendance à la guerre. Votre livre est toujours disponible aux éditions du Cavalier Bleu. Peut-être pour conclure cette première émission d'une série que nous avons titrée Une nation transformée par la guerre. On a bien entendu avec vous Anna-Colin Lebedev et Anastasia Fomichova comment la société s'était transformée pour la guerre aussi, mais également par la guerre. Est-ce que vous voulez, peut-être pour conclure, Anna-Colin Lebedev et Anastasia Fomichova, qui vivez, vous, à Kiev, la plus grande partie de l'année, nous dire un mot à ce sujet?
Oui, moi, je dirais comme conclusion de notre discussion, j'aimerais poser un point. Aujourd'hui, c'est sur cette dernière année, on a beaucoup de gesticulations autour des négociations de paix, d'accords que l'Ukraine devrait accepter d'une manière ou d'une autre. Dans la société ukrainienne telle que nous l'avons décrite, dans l'interaction entre l'État et les citoyens telle que nous l'avons décrite, aucun accord en fait ne pourra apparaître légitime aux yeux de la population s'il n'est pas validé par la société civile. Et je dirais l'adhésion non seulement des partis composant le Parlement ukrainien, mais non seulement des Ukrainiens ordinaires, mais surtout en fait de ces activistes qui sont aujourd'hui des leaders d'opinion extrêmement importants, sera centrale et on devra y faire attention.
Anastasia Fomichova, en quelques mots.
Absolument. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la guerre a transformé ce rapport entre les citoyens et l'État, que les citoyens se sentent investis aussi du devoir de construire l'État. Et donc, c'est ce qui explique cette résistance, cette résilience en fait, qu'on voit depuis 4 ans, et qu'effectivement, aucun accord ne saura être imposé sans l'accord de la société.
Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Anastasia Fomichova, docteur en sciences politiques, cofondatrice du think tank IU Leap, autrice du récit Volia, qui est paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup Anna-Colin Lebedev, Ukraine, la force des faibles, apparu en juin dernier aux éditions du Seuil. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Mexique est en état d'alerte, Catherine, après la mort du narcotrafiquant le plus recherché du pays, tué par l'armée.
El Mencho, de son vrai nom, Nemesio Oseguera Cervantes, était l'un des criminels les plus recherchés au monde, souligne El Universal, à la tête du puissant cartel Jalisco Nueva Generación, un acteur majeur du trafic de fentanyl et de cocaïne, inondant notamment le marché aux États-Unis, relève le site d'investigation mexicain Animal Politico. Avec des liens dans une quarantaine de pays, dont la Colombie, le Canada ou la Chine, l'annonce de la mort d'El Mencho s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le Mexique, note-elle. Pays, plus de 250 barrages routiers recensés ensuite par les autorités. Tout est parti d'une opération militaire menée dans la localité de Tapalpa, dans l'état de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, où El Mencho, 59 ans, a été grièvement blessé hier, indique Excelsior. Le baron de la drogue est mort pendant son transfert aérien vers Mexico. Et pour le Wall Street Journal, c'est la dernière preuve de la montée en puissance du gouvernement mexicain dans la guerre contre les cartels sous la pression intense de l'administration Trump. Les États-Unis avaient mis à prix la tête d'El Mencho pour 15 millions de dollars. Et cela fait des semaines, raconte El Universal, que l'armée mexicaine, aidée par Washington, traquait ce narcotrafiquant dans les montagnes du sud de l'état de Jalisco où El Mencho avait ses habitudes. Il avait construit un système de survie criminelle fondé sur une mobilité constante, des abris stratégiques et des réseaux d'information qui lui ont permis d'échapper aux autorités plus d'une vingtaine de fois, explique le quotidien Reforma, alternant entre zones montagneuse reculée et métropole afin de compliquer le recueil de renseignements sur le terrain. El Mencho, sous garde rapprochée, avec un redoutable arsenal autour de lui, relève les journaux mexicains Excelsior et Proceso. L'opération d'hier a permis de saisir des véhicules blindés notamment et des lance-roquettes capables de percer un char, note le Wall Street Journal, ou d'abattre des avions.
La capture ou la mort d'El Mencho figurait d'ailleurs parmi les exigences des États-Unis envers le Mexique.
Et c'est donc une première victoire majeure pour la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, analyse El Universal, et pour son secrétaire à la sécurité et à la protection du citoyen, Omar Garcia Harfuch. Tous deux se démarquent, opère une nette rupture avec l'ex-président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui préférait la coopération plutôt que la violence avec les cartels, rappelle El País. Des autorités incapables depuis une quinzaine d'années d'arrêter la fulgurante ascension d'El Mencho, accuse El Universal. El Mencho, qui avait commencé comme petit trafiquant de drogue au sein du cartel Milenio dans l'ouest du Mexique, profitant ensuite de conflits avec d'autres groupes, précise Animal Politico, pour former entre 2009 et 2011 le cartel Jalisco Nueva Generación, l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus violentes du Mexique, rivalisant notamment avec le cartel de Sinaloa établi de longue date. Ce cartel, concentré sur le trafic de drogue de synthèse, de cocaïne, versait également dans le blanchiment d'argent, les crypto-monnaies, l'extorsion, le trafic d'êtres humains et les escroqueries immobilières, détaille Animal Politico. Une puissance qui se vérifie encore aujourd'hui après la mort d'El Mencho, tel un effet domino révélant la puissance de feu du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, souligne El País. Ces hommes de main ont érigé plus de 250 barrages routiers dans une vingtaine d'États, indique El Universal et Excelsior. Et puisque les routes ne sont pas sûres, interruption de certains transports publics, des écoles, des universités vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre, rapporte Reforma et El País. Des cours en ligne sont aussi proposés aux étudiants.
En la mañana, durante estaba toda esta mobilización y la quema de vehículos y bloqueos dentro del área metropolitana.
Ce matin, mobilisation générale dans la zone métropolitaine de Guadalajara après une attaque armée contre des soldats de la garde nationale, annonce le journal Milenio. Des véhicules incendiés et des barrages routiers ont également été signalés dans la capitale de l'état de Jalisco, fief de feu El Mencho. Le journaliste du Milenio évoque jusqu'à 6 morts parmi la garde nationale, des morts qui n'ont pas encore été confirmées par les autorités. D'ores et déjà, les États-Unis, le Canada et la France font partie des pays qui appellent leurs ressortissants à se mettre à l'abri, rapportent le New York Times et le Globe and Mail. Au Mexique, le journal Proceso parle du cartel de Jalisco Nueva Generación comme d'une hydre décapitée, d'où émergent plusieurs visages déjà pour prendre la suite d'El Mencho, à commencer par son beau-fils, jusque-là en charge de la logistique dans le narcotrafic.
Merci beaucoup Catherine Dutu.